France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, le temps et les algorithmes, entre eux, comment ça se passe ? Le temps est souvent considéré par les informaticiens comme une sorte d'impôt qu'ils doivent payer pour effectuer des calculs à l'aide d'ordinateurs. Mais quel est au juste le lien entre l'informatique et le temps ? Plus généralement, comment le monde numérique gère-t-il le temps ? Est-il un allié ou un adversaire ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Gérard Berry. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez de multiples titres. Vous êtes professeur au Collège de France. Vous avez occupé la chaire Algorithmes, Machines et Langages. Vous êtes membre de l'Académie des Sciences, de l'Académie des Technologies et surtout, si j'ose dire, du Collège de Pataphysique.
Exact.
Et vous venez de publier un livre passionnant qui s'intitule « Le temps vu autrement », qui vient donc de paraître aux éditions Odile Jacob. C'est un livre étrange. Certains chapitres racontent l'histoire de la mesure du temps, notamment la naissance au XIIIe siècle de son fameux emblème, le tic-tac des horloges. D'autres chapitres sont de délicieux petits traités de pataphysique. S'y trouve par exemple évoquée la question de savoir si l'expression « il y a belle lurette » désigne ou pas une époque antérieure à celle correspondant à « il y a des lustres » ou « il y a un bon bout de temps ». Et puis il y a carrément des chapitres qui sont des cours du Collège de France. Et vous oscillez d'un style à l'autre. Et j'ai une première question, Gérard Berry, sur le titre. Le temps vu autrement. D'abord, je savais pas que le temps pouvait être vu. Et d'autre part, autrement, par qui ?
Alors, autrement
que par qui ?
Ben, pour moi, c'est autrement que par les physiciens. Parce que les physiciens s'intéressent évidemment au temps. En particulier vous. Et les physiciens nous ont embêtés beaucoup avec le temps, puisqu'ils ont découvert que ben, il n'y en avait pas qu'un, qu'il était assez malléable, que c'était pas quelque chose de bien défini, qu'on peut mesurer, on peut le mesurer localement, mais que ça pose des gros problèmes de le mesurer globalement, si tant est que ça veut dire quelque chose, etc. Moi, je m'intéresse au temps de tous les jours, celui qu'on connaît depuis toujours, et... Bon, on le connaît depuis toujours, mais il n'y a pas longtemps qu'on sait le mesurer, il n'y a pas longtemps surtout qu'on sait le distribuer. Et ça, c'est très important.
Ben, vous conviendrez que les physiciens font preuve d'ouverture d'esprit, puisqu'ils vous invitent quand même.
Absolument. Oui, parce que moi, j'aime beaucoup les émissions sur le temps, les vôtres en particulier, mais il y a beaucoup d'autres choses à raconter. Par exemple, moi, je parle de la langue du temps, je parle de l'histoire du temps, parce que, par exemple, l'histoire de la mesure, elle est connue par les physiciens, très bien. L'histoire de la distribution, c'est autre chose. Et c'est un truc qui devient fondamental aujourd'hui, la distribution du temps, qui est très, très fragile. Et ça, on peut en parler aussi.
Hein. Alors, dans votre livre, Gérard Berry, il y a 8 chapitres, et vous dites qu'on peut les lire dans n'importe quel ordre. Donc si on fait le calcul, et d'ailleurs vous le faites dans le livre, ça donne 40 320 façons différentes de lire votre ouvrage.
C'est ça, c'est factoriel 8.
Moi je l'ai lu dans l'ordre, je les ai lus dans l'ordre, est-ce que c'est bien, pas bien ?
Ben oui, je les ai écrits pas dans l'ordre, mais je pense que les lire dans l'ordre n'est pas idiot, mais les autres ordres sont possibles aussi. Ils donnent pas forcément la même impression, ça j'ai pas essayé.
Alors il y a des chapitres savoureux dans lesquels vous venez de l'évoquer, vous parlez de la langue française. Est-ce que la langue dit bien le temps ?
La langue dit très mal le temps. Déjà, en français, le mot temps a 5 sens différents qui correspondent à 5 mots en anglais. Un time pour le temps tel qu'on est, weather pour le temps qu'il fait. Il y a tense pour la conjugaison en anglais, le temps de conjugaison. Il y a stroke pour le moteur à 4 temps. Et il y a beat pour la musique.
Oui, mais même en français, le mot temps est victime d'une polysémie fulgurante, ça dit la durée,
c'est ça.
Ça dit le changement, le mouvement,
c'est ça.
Le devenir, l'argent, le temps c'est de l'argent, etc.
Absolument.
Et donc comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir avec un concept aussi flou ?
Eh ben, on fait des phrases compliquées, rigolotes, et on a beaucoup de phrases comme ça qui n'existent pas en anglais, ou quasiment pas, du genre, quand on veut faire quelque chose vite, on dit, on peut aller de aussi sec à en moins de temps qu'il faut pour le dire, qui est une manière très très longue de parler du temps court, quoi. Donc, on se débrouille.
Et si je vous dis, on se reverra, Gérard Berry, à la Saint-Glinglin, est-ce que c'est vraiment plus précis que si je disais, Dieu sait quand ?
Exactement.
Non, je veux pas exactement, je veux savoir la réponse.
Ah ben, est-ce que c'est plus précis Non, on sait pas, et c'est pour ça que je proposais des commissions de normalisation des expressions françaises qui classent les expressions en fonction de leur durée.
Alors, il y a un chapitre, vous parlez des unités qu'on utilise en physique pour mesurer les longueurs, les masses, etc. Et ce que tout le monde sait sans doute, maintenant, toutes les unités, longueur et masse, sont définies à partir de la seconde.
Avec des définitions qui sont extraordinaires à lire, parce que un humain normal n'a aucune chance de les comprendre.
Oui, elles font 5-6 lignes, vous les rappelez, hyper techniques.
Avec des mots très 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 techniques, mais elles ont une conséquence énorme, c'est que maintenant on doit tout compter en secondes.
Donc je peux commander 10 nanosecondes de tissu chez mon marchand de rideaux.
Exactement, et 3 ans de beefsteak ou 3 siècles de beefsteak, faut faire le calcul.
Non, il faut 3 millénaires.
3 millénaires de beefsteak.
Pour que ça soit consistant, pour que ça constitue un repas digne de ce nom.
Oui, c'est ça, 3
millénaires de gigot. Voilà. Être dans l'air du temps, c'est se trouver où exactement?
Ça, c'est un problème ouvert, parce que ça change tout le temps. L'air du temps, c'est être prêt au changement, mais pas trop. Faut pas être trop en avance, ni trop en retard.
Est-ce qu'on a raison de parler d'une vitesse du temps, de dire que le temps s'écoule de plus en plus vite, par exemple?
Ah oui, mais c'est un nombre sans dimension. Donc, quand on dit le temps passe vite, c'est 1,2, 1,7, on ne sait pas. Il faut préciser, parce que sinon la phrase est floue.
Mais non, une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc, dire que le temps a une vitesse, c'est dire qu'il change son rythme d'écoulement par rapport à son rythme d'écoulement.
Oui, c'est ça, c'est en seconde par seconde, donc c'est sans dimension.
Donc, il fait une seconde par seconde.
Oui, c'est ça, une seconde par seconde. Et l'accélération, c'est 1 par seconde ou 2 par seconde, c'est comme ça. Il faut avoir les conséquences de ce qu'on dit, il faut comprendre.
Alors il y a beaucoup de chapitres, on ne peut pas les résumer tellement ils sont copieux, mais vous parlez de l'histoire de la mesure du temps, notamment de cette invention du tic-tac des horloges, qui symbolise le temps, qui date du XIIIe siècle.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement comment ça s'est passé? Pourquoi ça fait tic-tac?
Alors, le problème, c'est qu'avant, il y avait les heures inégales, puisque il y avait 12 heures entre le lever du coucher du soleil et l'inverse, la nuit. Et bon, ça veut dire que les heures changeaient de durée tous les jours. C'est ce que fait le cadran solaire aussi. Et les gens avaient besoin de mesures qui marchaient la nuit aussi. Et donc, il y a une invention qui date d'avant, c'est l'échappement, qui est à la base de toutes les pendules, et c'est lui qui fait tic-tac. Donc il y a un système, au début c'était un folio, après un balancier, et qui va faire un mouvement constant, enfin on ne sait pas ce que veut dire constant, mais un mouvement qu'on suppose constant dans le temps, et qui fait tic-tac. Ça veut dire que le temps est devenu discret, au lieu du continu. Alors ça c'est quand même un changement assez notable. Et pourquoi on a eu de plus en plus besoin du temps? C'est à cause des bateaux. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est le problème de la longitude. Avant, on savait facilement mesurer la latitude en observant le soleil à midi. Et donc, tous les bateaux prenaient la même route. Et donc, il y avait les pirates sur cette route-là qui attendaient simplement les bateaux. Et avoir la longitude, ça permettait d'explorer le monde et tout ça. Et pour ça, il fallait avoir l'heure précise. Et donc, le problème de l'heure s'est posé là. Et en fait, Galilée disait déjà que c'était le plus grand problème scientifique connu. Et il a mis 150 ans à être résolu.
Mais il y a un accident, enfin, un naufrage tragique qui a joué un rôle important dans l'histoire.
Oui, c'était le naufrage de vaisseaux, beaucoup de vaisseaux de la flotte amirale anglaise qui était au Scilly alors qu'il pensait être au large de Brest. Il y avait quand même un des membres d'équipage qui était venu dire au capitaine que il était sûr qu'ils étaient à Brest et tout, et le capitaine l'a fait pendre pour désobéissance aux ordres en public avant que tous les bateaux ne coulent.
Alors c'est incroyable cette histoire, parce que bon, vous la racontez en détail, mais ça a provoqué une réaction chez les Français. notamment l'abbé Grégoire, en 1795, va écrire un texte qui va conduire à la création du Bureau des Longitudes français. Voilà ce qu'il écrit. « Une des mesures les plus efficaces pour étouffer la tyrannie britannique, c'est de rivaliser dans l'emploi des moyens par lesquels cet État, qui ne devrait jouer qu'un rôle secondaire dans l'ordre politique, est devenu une puissance coloniale. Or, les Anglais, bien convaincus que sans astronomie, on n'avait ni commerce ni marine, ont fait des dépenses incroyables pour pousser cette science vers la perfection. »
Absolument. Et ça, c'est un truc que les Français... Et les Français ne connaissent pas du tout l'histoire du temps, parce que ça s'est passé en Angleterre. L'Angleterre était un pays bien inférieur à la France en puissance, mais Louis XIV et tout ça, ça ne les a pas intéressés d'avoir une... Alors qu'il y avait les compétences, hein, mais ça ne les a pas intéressés d'avoir une mesure précise du temps, parce qu'eux, ils pouvaient aller sur la terre, hein, alors que les Anglais ne pouvaient aller que sur la mer. Donc la mesure du temps a donné la toute-puissance à l'Angleterre.
Puissance injustifiée d'après l'abbé Grégoire.
Bien sûr. Le conflit franco-anglais ou anglo-saxon a continué jusqu'à la définition actuelle du temps, qui est très très récente. Donc il est encore là, le conflit. On en parlera peut-être. Mais voilà. Alors, je tiens à citer quand même mes sources, là, dans le cas précis. C'est en particulier un livre qui s'appelle Longitude, de Davas Obel, qui est un livre absolument merveilleux. Et il faut le lire. Donc, comme je sais que les Français l'ignorent, c'est aussi pour ça que je l'ai résumé. Mais il y a tas d'autres choses dans ce chapitre.
Oui, il y a beaucoup d'anecdotes dans votre ouvrage, Gérard Méry. Notamment, vous racontez en détail ce qu'on pourrait appeler la saga des horaires de train, notamment au XIXe siècle.
Ah oui.
Alors, comment est-ce qu'on fait pour connaître l'heure des villes qui ne sont pas là où on est, et pour que les trains arrivent à l'heure, et pour que... Si on parle de la poste, le cachet de la poste fasse foi.
Exactement. C'est vraiment le train qui a imposé d'avoir une heure commune un peu partout. Et jusqu'à, même dans le monde, à la fin, en 1929. Et c'était une histoire extraordinaire parce que, à l'époque, chaque ville avait son heure. C'était comme ça. Et chaque ville avait son heure. Et sur le quai de la gare de la ville, il y avait déjà, pas sur le quai, sur le fronton de la gare, il y avait deux pendules. Une pendule à l'heure de la ville et une pendule à l'heure de Paris. Pourquoi ? Parce qu'il faut, pour faire les horaires, il faut bien avoir la même heure partout. Sinon, c'est complètement illisible. Donc, il y avait déjà deux pendules. Mais sur les quais, il y avait une troisième pendule. On ne voyait pas les deux premières. Il y avait une troisième pendule qui, elle, était à l'heure de Rouen. Alors ça, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps, ça m'a séché. Et pourquoi elle était à l'heure de Rouen ? Parce que c'est 5 minutes avant Paris et ça permettait aux gens d'arriver en retard sans rater leur train. C'est merveilleux. Et bien dans tous les pays d'Europe, c'était pareil, avec 5, 7, 10 minutes, ça dépendait des endroits.
De la culture locale.
De la culture locale et ça fait des comités de normalisation sans fin. Enfin bon, c'est...
Mais vous savez qu'Einstein, en 1905, quand il était au bureau des brevets, travaillait sur des brevets qui visaient, selon les ingénieurs qui les présentaient, à synchroniser les horloges à distance.
Oui.
Et c'est par l'étude de ces brevets qu'il a eu, ça a contribué, c'est pas la seule cause, à l'élaboration de la théorie de la relativité restreinte. Mais Gérard Méry, j'ai une question plus personnelle à vous poser. J'ai appris que vous êtes né le jour de Noël.
Oui.
Et je sais bien que coïncidence n'est pas corrélation, que corrélation n'est pas causalité, mais est-ce que c'est à cause de vous que le jour de Noël est célébré dans le monde entier ?
J'essaie de faire croire ça aux enfants, et ça me rassure parce qu'il y a quand même un esprit critique, même à 2 ans. J'ai jamais réussi à convaincre quelqu'un.
Alors vous avez élaboré un calendrier qualifié de pataphysique.
Oui, ça, c'est pas moi, hein.
Oui, enfin, l'académie, c'est le collège de pataphysique.
Collège de pataphysique.
En 1947, je crois.
Oui, c'est ça.
Alors, quelles sont les dates à retenir et combien durent les mois dans cette histoire?
Alors, c'est compliqué parce que les mois ont des noms très élégants, Nivose, Pluviose. Alors, les Ose, c'est l'hiver. Après, il y a les Halles, ça, c'est le printemps, Floréal, etc. Tous les jours ont des noms poétiques, soigneusement choisis, totalement différents de ceux d'avant. Et les mois font 30 jours, de 3 semaines de 10 jours, hein, en l'honneur du décimal. Et puis, il y a 5 ou 6 jours de rabat qui s'appelle les 100 kilotides, les vertus, les récompenses, etc. Et là, ça, c'était des grandes fêtes. Donc, c'est, alors, le calendrier pataphysique est différent parce qu'il a des mois de 28 jours qui sont organisés pour que le premier soit un dimanche, ce qui fait que le 13 est un vendredi.
Donc on augmente la probabilité d'avoir des ennuis.
Voilà, voilà, c'est ça.
Il y a un chapitre, je ne vais pas tous les énumérer parce qu'ils sont nombreux, mais je trouve que votre chapitre sur les ondes est particulièrement délicieux.
Alors les ondes, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, que je ne connaissais pas trop au début, mais je me suis rendu compte que le monde entier est empli d'ondes et dirigé par les ondes dans tous les sens. Et je me suis rendu compte aussi que le savant qui a résolu le problème des ondes, Joseph Fourier, qui n'était pas que savant, il était préfet de Napoléon et tout ça.
Oui, c'est un homme politique.
Ah, c'est un homme politique. Et après, il a été président de l'Académie des sciences. Mais ce savant n'a même pas une rue en France. Personne ne connaît son nom. Bon, évidemment, sauf ceux qui connaissent son nom, donc ceux qui font des ondes. Et alors, les ondes servent partout.
Non, mais on l'associe Fourier plutôt à la chaleur qu'aux ondes, d'ailleurs.
Ben, lui, il n'a jamais parlé d'ondes, hein. Il n'a jamais parlé d'ondes, il a fait l'équation de la chaleur, la propagation de la chaleur. C'est pas un problème différent, techniquement. Il a dit, ça doit pouvoir s'appliquer aux ondes. Et c'est Ohm, 30 ans après, qu'il a appliqué à la musique, etc. Et puis, on s'est aperçu petit à petit. Et il y a eu une très grosse découverte, la transformée de Fourier, qui est un moyen de calculer très facilement ce qu'on appelle le spectre d'une onde. Alors, faut savoir que notre oreille calcule ça. C'est-à-dire qu'il y a des cils vibratiles qui calculent, chacun est sur une, accordé sur une fréquence, ils vibrent et ils font ce qu'on appelle la transformée de Fourier, c'est-à-dire comprendre la structure instantanée d'une onde. Et voilà, et c'est maintenant un algorithme qui sert absolument à tout et que très peu de monde connaît.
Mais on croit tous savoir ce qu'est une onde, mais on se trompe quand il s'agit de comprendre ce qui se passe quand elle passe. Vous donnez l'exemple de la houle, un système de vagues, on met un bouchon à la surface de l'eau. Quelle est la trajectoire du bouchon au passage de la vague? Beaucoup de gens répondent, ben, il oscille du bas vers le haut, etc., de façon périodique, alors que la bonne trajectoire est une ellipse.
Mais il y en a 3, en fait. Il y a réponse, il avance tout droit en suivant la vague.
Ça, c'est le surfeur.
Oui, c'est le surfeur. Et il fait un mouvement horizontal ou alors il fait un mouvement vertical. Les 3 sont fausses. Mais beaucoup de scientifiques, bien évidemment, les gens qui connaissent les ondes, ils savent, mais les autres, non. Et donc, c'est pas enseigné, les ondes, hein, même dans le supérieur. Sauf aux gens à qui c'est enseigné, c'est pas enseigné. Or, c'est partout. C'est
alors, quelle est la bonne trajectoire du bouchon au passage de la vague?
C'est une ellipse. Et si on met un bouchon sous l'eau, si tant est qu'il ne reflotte pas, c'est une ellipse de plus en plus petite qui devient un cercle. La vague n'est pas une sinusoïde, c'est un peu compliqué des vagues, mais c'est une ellipse, oui.
Donc voilà, on peut se tromper alors que c'est des notions qu'on considère comme évidentes. Mais un jour, vous racontez que vous avez donné une conférence devant des enfants, devant une classe, et un des élèves vous a dit « le son, c'est pas comme la lumière, ça prend mieux les virages ». Ça vous a surpris ?
Oui, c'était dans une école Montessori, je leur enseignais l'informatique. Mais moi, j'aime bien enseigner l'informatique concrète. Et donc, on a fait les images, ils trouvaient ça trop facile. Et j'ai dit, le son, mais c'est moi je connaissais pas trop le sujet. Hein. Et j'ai dit, le son, c'est plus dur, on va essayer. Et donc, je leur dis, comment se déplace le son? Et il y a un enfant qui me dit, le son, c'est comme la lumière, ça prend mieux les virages. Alors là, j'ai été légèrement secoué. Mais j'ai dit, il faut que j'en agisse vite.
Je vois nos ingénieurs du son dans la cabine qui attendent avec impatience votre réponse.
Alors j'ai été quand même leur mettre une vitre, une glace sur le mur. Et puis j'ai leur montré que la lumière, tiens, on la voyait aussi la glace d'à côté. Donc il dit, ah bon, mais alors à ce moment-là, le mur, c'est une glace pour les sons. Et j'ai dit, bah oui. Et puis après, là, ils étaient chauds, hein, parce qu'avant, ils n'étaient pas très chauds. Et là, je leur ai dit, ben, comment se déplace le son, quoi? Ah, ils ont tout essayé, et puis tout d'un coup, il y a un gamin de 6 ans, je me rappellerai toujours de ça, qui lève la main, complètement allumé, il avait des phares qui sortaient de ses yeux, c'était visible comme dans les dessins de Tex Avery, il m'a dit, le son se déplace en dansant dans l'air. Et les autres m'ont dit, bon ben c'est bien, rentre chez toi, on a tout compris, on revient la semaine prochaine. Donc ça, c'était une joie absolument incroyable d'enseignant. Hein.
Mais c'est une question qu'on n'a pas tendance à se poser, mais par exemple, celle-ci, elle est passionnante. D'où vient qu'on peut figer le temps en prenant une photo, mais qu'on ne peut pas figer le son ?
Exactement. Alors, il y a quand même le fait que la lumière, ça bat beaucoup plus vite que l'air. Et donc, on peut figer... En fait, on fige énormément d'ondes, d'oscillations de l'onde dans la photo. Et la photo, moi, je suis photographe et j'aime bien la photo parce que, justement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la nature. Ça, et le temps, quand on regarde une photo... C'est le temps de l'observateur, c'est pas le temps de la photo. Tandis que le cinéma, ben l'observateur, il est conduit par le temps du cinéma. Donc le cinéma et la photo n'ont aucun rapport. Bien qu'on se serve des photos pour faire du cinéma, mais ça, c'est pas grave. Et donc, c'est très important. C'est un des phénomènes les plus simples, les ondes. Et c'est un des phénomènes les plus inconnus.
Alors, on va en venir quand même à votre sujet. C'est le rapport entre le temps, Gérard Berry et les algorithmes. Dans le livre, vous dites qu'il y a trois sortes de configurations. La première qui a vu le jour avec les premiers ordinateurs à la fin des années 40. On exécute séquentiellement un programme, instruction par instruction, le plus rapidement possible. Seconde phase, dites-vous, c'est celle qui est née dans les années 90 avec l'arrivée des premiers réseaux d'ordinateurs qui travaillent en même temps. Et puis, et dans ce cas-là, le temps est plutôt un ennemi qu'un allié, car son passage augmente le risque de bug. Et la troisième configuration est celle de l'informatique que vous appelez synchrone, que vous avez inventée avec d'autres, qui travaille en temps réel, c'est-à-dire tente de résoudre des problèmes à mesure qu'ils se posent, un peu comme le pilote d'un avion. Alors ça va demander, Gérard Berry, quelques explications.
Alors effectivement, c'est pas du tout un point de vue classique, même chez les informaticiens. Moi j'ai fait les trois sortes. Et elles sont très différentes. Donc la première, c'est une théorie extrêmement développée, avec encore des problèmes ouverts absolument massifs, qui est la combien de temps faut faire un algorithme. Alors un algorithme, faut comprendre, ça a été inventé avec des humains, avec un crayon. Et la machine de Turing, qui est le prototype de l'ordinateur, même si elle est complètement inefficace, mais ça c'est pas grave, elle fait les choses une par une. Parce qu'un humain fait les choses une par une. Donc c'est le modèle, l'ordinateur est sur le modèle de l'humain, l'ordinateur classique. Heureusement, parce que sinon on n'y serait pas arrivé à le faire. Et donc, il y a toute une théorie de se demander combien ça coûte un calcul. Ben, ça dépend du calcul. Et ça, on l'a vu très rapidement.
Mais ça dépend aussi de la machine.
C'est pas grave, la machine n'est pas grave, parce que si on double la machine, on double le temps de calcul. Je veux dire, si la machine va deux fois plus vite, on double le temps de calcul. Mais vous allez voir que c'est pas important, hein. C'est un facteur linéaire près. Bon, et ben, quand on prend des facteurs linéaires près, qu'on les compare à des carrés ou des exponentiels, ben, ça marche pas. Donc, on part d'ordre de grandeur. Et donc, la théorie de la complexité algorithmique, ce qu'elle fait, c'est on prend un problème, on prend des données pour ce problème et on regarde combien de temps il faut, en fonction de la taille des données. Par exemple, trouver le maximum d'une liste, ben, ça prend la longueur de la liste. Chercher dans un dictionnaire, c'est extrêmement rapide. C'est le logarithme de la taille du dictionnaire. Parce qu'on ouvre au milieu, on regarde si c'est avant-après, on refait ça. Si le dictionnaire fait 1000 pages, en 10 opérations, on est arrivé. Donc ça, c'est très rapide, ça coûte rien. Trouver le maximum, ça coûte la longueur. Il y a multiplier deux matrices, et ben c'est un problème qui a été longtemps ouvert, qui n'est pas encore fermé. Et parce que les meilleurs algorithmes ont été trouvés alors sur des matrices 8-8 par AlphaGo récemment, mais il y a eu toute une c'est l'opération la plus fréquente maintenant, en particulier dans ce qu'on appelle l'AI, c'est la multiplication de matrices. Quand on dit GPU, ça sait faire qu'une seule chose, c'est la multiplication de matrices. Donc voilà. Et bon, ça c'est 2, alors maintenant on était à 791, 2,7 maintenant 79, maintenant on a 2,4. C'est modéré par la complexité des algorithmes, d'écriture des algorithmes. Mais voilà. Et puis après, il y a des choses beaucoup plus chères. Il y a des algorithmes en N3, en N4. Et puis, il y a le grand mystère. Il y a le grand mystère qui est, par exemple, le calcul booléen. Calcul Boolean, il n'y a pas plus bête. Hein. C'est George Boole, 1850. C'est le calcul de vrai ou faux. Vrai, faux, les valeurs, avec les trois opérateurs et ou non. Voilà. On écrit une grosse formule, on essaie de savoir si elle peut être vraie. Alors, ça, il y a beaucoup de logiciens ont travaillé là-dessus, en particulier Lewis Carroll, l'auteur d'Alice des Merveilles. Et, on pensait que c'était un problème exponentiel, insoluble. Mais en fait, Cook, qui était un grand chercheur, Tim Cook, canadien, a montré en 1970 qu'il faisait partie d'une classe énorme de problèmes fondamentaux. Le problème des emplois du temps dans un lycée, tout ça, tous ces problèmes-là sont équivalents. C'est-à-dire, si on en résout un, on a le moyen de résoudre tous les autres, ils s'intercodent, et il n'y en a aucun qu'on sait résoudre. Alors, c'était un grand problème. Et alors, on a eu une des grosses surprises, surtout à partir de l'an 2000, donc c'est pas vieux, sur le calcul booléen lui-même. Et les gens, les cas le pire, c'est certainement exponentiel. Mais est-ce qu'on peut pas faire, est-ce que les cas humains sont pires? Et la réponse est non. On sait pas pourquoi. Mais on peut écrire des formules. Par exemple, un sudoku, si vous l'écrivez en booléen, c'est très facile. Ça fait beaucoup de variables, ça fait 9 fois 81 variables, donc 729 variables. La formule fait 25 000 caractères de long, un truc comme ça. Et vous appuyez sur retour chariot dans les solvers modernes, vous appuyez sur retour chariot, la réponse est là. Donc pourquoi ça marche, on n'est pas encore entièrement sûr. Par contre, montrer qu'on s'il y a 42 pigeons et 41 trous, il y a forcément avec cette technique là, il y a forcément deux pigeons dans le même trou, on sait pas faire. Donc
mais pourquoi c'est un mystère? Enfin, est-ce qu'on comprend pourquoi on comprend pas?
Alors, absolument pas, et c'est pour ça que c'est un des 7 problèmes de mathématiques du millénaire. Est-ce que on sait calculer le calcul booléen et donc tout un tas de milliers d'autres problèmes? Très vite, on ne sait pas.
Donc vous voulez dire que Gérard Berry, c'est un des problèmes qui, si on sait le résoudre, et si on montre qu'on sait le résoudre, on touche beaucoup d'argent?
$1 million, oui, c'est un des problèmes du Clay Institute, il y en a 7. Donc oui, mais il y a pas mal de gens qui essayent, c'est pas pour $1 million. Hein, si, ça fait pas de mal, mais c'est pas $1 million.
Donc ça veut dire que même pour la première configuration du lien entre temps et informatique, qui semble assez trivial, il y a d'énormes problèmes qui se posent quand même.
Ah oui, et bien il y en a un autre, c'est que c'est très utile d'avoir des algorithmes extrêmement chers. C'est ça qui fait la cryptologie. Chiffrer, c'est utiliser un algorithme très rapide qui fabrique une autre chaîne de bits qui est, pour la déchiffrer, ce qui est facile à déchiffrer avec la clé de départ, où il y a des systèmes plus compliqués, mais c'est pas grave, facile à déchiffrer avec la clé de départ, mais que personne ne sait retrouver sans la clé. C'est ça, chiffrer. Et ça, c'est des problèmes de maths très très durs, d'ailleurs en général ouverts. Et puis, il y a un des algorithmes fondamentaux qui s'appelle RSA, que je ne vais pas détailler ici, dont il a été montré par Shor il y a longtemps.
L'algorithme de Shor.
L'algorithme de Shor qui casse cet algorithme de cryptage.
Ça veut dire qu'un ordinateur quantique serait capable de casser tous les codes de cryptographie.
D'assez grande taille, hein. Donc c'est pas fait. Mais pas tous les codes. Non. Il y a plusieurs codes. Il y a les codes à clé unique. Et ceux-là, c'est pas vrai qu'il sait les casser pour l'instant. Enfin, on sait pas plutôt. Tout ça, c'est des conjectures. Et, il y a des algorithmes à clé publique. Parce qu'une clé unique, ça veut dire qu'il faut l'échanger. Et il y a des algorithmes qui servent uniquement à échanger les clés publiques, et qui sont très malins. Et cela serait cassé. Mais ça ferait très mal déjà. Parce que si l'échange de la clé est cassable, ça veut dire qu'on peut trouver la clé aussi. Et donc ça, c'est un sujet de recherche mathématique très grande difficulté et d'une très grande importance pratique. Quand on dit que des maths difficiles n'ont pas d'importance pratique, ben là, si.
Gérard Berry, passons à la seconde configuration, donc celle qui est née dans les années 90 avec l'arrivée des premiers réseaux d'ordinateurs, qui, si j'ai bien compris ce que vous écrivez dans votre livre, change le statut du temps.
Alors, ça change complètement le statut du temps. Si vous regardez Internet, Internet, c'est quand même un objet que tout le monde utilise. Internet ne connaît pas le temps. Et c'est exactement pour ça qu'il marche. Avant, les centraux téléphoniques connaissaient le temps. Tout était minuté, tout, enfin, centième de seconde, si je puis dire, ou mieux. Et tout était comme ça. Il fallait avoir une carte pour qu'un central téléphonique marche. Un système téléphonique, il fallait avoir la carte de tout. Tous les commutateurs, tout ça. Et donc, Internet, c'est pile l'inverse. C'est un système qui paraît débile à première vue. On fait des petits paquets indépendants, tout petits, avec des morceaux de, et on les envoie dans le réseau, qui est énorme. C'est un énorme tas de fils dans le monde, ou d'antennes, ou de n'importe quoi. Et là, les paquets choisissent dynamiquement, enfin c'est pas eux qui choisissent, c'est les routeurs qui transmettent les paquets, choisissent dynamiquement par où ils vont passer. Quand vous envoyez un fichier, il y a rien qui dit que deux paquets vont passer par le même endroit, qu'ils arriveront dans le bon ordre, il y a rien même qui dit qu'ils arriveront. Internet tue beaucoup de paquets qui sont devenus trop vieux pour pas qu'ils encombrent le réseau. Donc là, il n'y a pas du tout de temps. Alors après, faut reconstituer quelque chose, parce que par exemple, quand on envoie un fichier, si on perd des morceaux, c'est pas pareil. Donc il y a des protocoles, dont un qui s'appelle TCP, par exemple, Transfer Control Protocol, qui permet de récupérer les choses. Alors c'est très difficile, c'est des mathématiques très difficiles là-dedans, partout, c'est pas évident, mais Internet, c'est un royaume des probabilistes.
Est-ce qu'on peut dire, comme vous le faites d'ailleurs, Gérard Berry, que Internet ignore le temps.
Internet,
c'est pas un mot un peu trop fort.
Non, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pour ça qu'il marche. Mais l'utilisateur d'Internet ne veut pas ignorer le temps. Donc on met par-dessus ce système-là un système qui va remettre le temps pour synchroniser les horloges des ordinateurs. Ce n'est pas un système exact. On ne peut jamais être sûr de ce qu'il fait, mais il marche en probabilité. C'est aussi un système très complexe.
Vous voulez dire qu'on rajoute un lien au temps pour que les humains puissent s'en servir?
C'est-à-dire qu'on envoie des paquets avec le temps exact où ils ont été envoyés, et il y a des calculs de probabilité, on le reçoit à un autre temps, mais qui est mesuré sur sa propre horloge, et il y a des calculs de probabilité et de synchronisation très très sophistiqués qui permettent de le faire. À l'heure actuelle, ça devient un danger massif. Parce que c'est pas crypté, c'est entièrement libre, ça peut être truqué très facilement, et la distribution du temps est le plus grand danger, un des plus grands dangers à l'heure actuelle, complètement inconnu des politiques et du grand public.
Mais danger dans quel sens? C'est quoi?
Eh bien, le temps est critique pour toutes les machines. Faut pas oublier que les ordinateurs sont en très grande priorité dans les machines. Les ordinateurs des hommes, ceux que vous voyez, ils sont vraiment en grande minorité dans le monde. Les ordinateurs des avions, les ordinateurs, tout ça. À l'heure actuelle, les ordinateurs sont dirigés par des horloges atomiques et par le GPS. Donc le GPS, enfin le GPS Galileo et tout ça. Qu'est-ce que c'est le GPS Galileo? C'est très rigolo. J'ai demandé à donc qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait que tu saches où t'es à partir du satellite? Et la réponse que j'ai eue le plus souvent, c'est je le demande au satellite où je suis. Alors moi, je fais un petit calcul, je leur dis quand même, il y a 4 milliards de gens qui demandent sans arrêt au satellite, il doit fatiguer le pauvre satellite. Non, c'est pas du tout ça. Ce que fait le satellite, c'est juste d'envoyer l'heure très précise, merci les physiciens, avec une précision de l'ordre du milliardième, 10 milliardième de seconde, parce que pour nous localiser à 30 cm près, c'est la vitesse de la lumière qui compte. Donc la lumière, elle a beau aller vite, elle va pas très loin dans ces...
Mais c'est une conséquence de la théorie de la relativité générale d'Einstein.
Ah oui, le GPS est la seule conséquence appliquée.
Le temps n'est pas le même à toutes les altitudes, parce que le champ de gravitation n'est pas le même à toutes les altitudes.
Exactement, et puis aussi la Terre courbe les liens entre les satellites, qui se synchronisent par ondes. Tout ça, c'est des ondes. Et donc, le GPS, c'est absolument pas sûr, parce que pour à peu près 30 euros, vous achetez un brouilleur GPS, et puis vous mettez le bordel dans votre... Il n'y a pas d'autre mot. Dans l'endroit où vous êtes, par exemple, à l'aéroport de Marseille, il y a un chauffeur de camion-citerne qui faisait du trafic d'essence, et il avait un brouilleur de GPS. Ils ont mis 2 mois à le trouver. Et tous les avions devaient faire les atterrissages à vue, ce qui n'est pas du tout pareil. Bon, à Marseille, on voit à Marseille, mais bon.
Passons, Gérard Berry, alors à la troisième configuration, celle pour laquelle, je l'ai dit, vous avez été un pionnier, l'informatique synchrone.
Voilà.
Alors synchrone, c'est un terme bizarre quand on l'associe à l'informatique, justement.
Oui, oui, et ben, justement, l'informatique synchrone, c'est ça. Prenez un avion. Un avion comme l'A320, qui était le premier avion informatisé. Alors ça veut dire quoi informatisé ? À l'époque, on disait à commande électrique. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Les commandes électriques, c'est bien parce que ça remplit l'hydraulique par des moteurs électriques. C'est plus léger. C'était la chose qu'on disait. Mais c'est pas ça là, le point important. Le point important, c'est que le vol est entièrement calculé par ordinateur. Pas le vol, le vol tous les centièmes de seconde.
En temps réel.
En temps réel. Il est complètement commandé par les ordinateurs. Le pilote n'a plus qu'un manche à balai de jeux vidéo. Et lui, sa mission, c'est pas de piloter l'avion, c'est de diriger l'avion. C'est pas du tout pareil, c'est de diriger le vol, en fait. Et donc, ça, c'est l'Airbus qui l'a fait. Et là, on est dans un problème complètement différent. Il faut vraiment calculer tous les centièmes de seconde. Mais tous les centièmes de seconde. Donc, on ne se pose pas la question de savoir si ça va assez vite ou pas. On part avec cette idée-là. Et alors, avant, les gens faisaient ça, ils écrivaient des programmes, ils mesuraient le temps qu'ils mettaient et tout. Et puis, c'était... Il n'y a pas que les avions, il y a toutes ces sortes de machines. Et puis, voilà. Alors, il y avait 3 équipes françaises qui ont résolu le problème assez largement. C'est marrant, ça a été fait qu'en France. Une à Grenoble, une à Rennes et la mienne à Sofia. Et c'était des équipes pluridisciplinaires qui mélangeaient 2 sciences, l'automatique et l'informatique. Alors je dis science parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur dans la recherche. On n'avait pas droit aux ordinateurs. Donc on était super bons en théorie, ça nous a bien aidés. L'automatique, c'est la science de qu'est-ce qu'il faut faire pour automatiser un système. Là, c'est des équations différentielles, c'est des techniques mathématiques bien précises. Et l'informatique, ben, c'est des instructions, donc il faut passer de l'un à l'autre. Moi, je me suis dit, il y a une méthode très simple de gérer tout ça, c'est de dire que on calcule avec un ordinateur infiniment rapide. Bon, les gens m'ont dit, mais ça n'existe pas. Mais je m'en fous, moi.
C'est une expérience de pensée.
C'est une expérience de pensée. Mais l'expérience de pensée, on l'a poussée vraiment très loin. Parce qu'on s'est aperçu que si on faisait ça, on faisait des langages de programmation complètement différents de tous ceux qu'il y avait eu avant et qui donnaient des possibilités d'optimisation et aussi, pas seulement d'optimisation, de vérification, qui étaient bien supérieures à ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'en prétendant qu'on calcule infiniment vite, on finit par savoir calculer beaucoup plus vite que les gens qui ne prétendent pas. Et donc, c'est resté très souterrain pendant longtemps. Alors évidemment, on a travaillé avec Dassault, on a travaillé avec tous les gens comme ça, suivant les équipes et tout. Et après, on a créé une société qui s'appelle SRN Technology. Il y en a eu d'autres avant, mais SRN Technology, qui a mis ça en grand. Et puis, on s'est aperçu aussi, entre-temps, qu'on faisait en fait des circuits électroniques. C'est pareil. Donc, mon langage SRN servait avec exactement la même syntaxe et tout, les mêmes outils. On pouvait fabriquer soit des circuits électroniques super performants, soit des logiciels.
Est-ce que ça veut dire que ce langage STRL que vous avez inventé n'a pas besoin d'être traduit ?
Ah si, il est traduit par des algorithmes très mathématiques. Il est traduit soit en circuit, soit en logiciel. Mais c'est exactement la même traduction. Puis à la fin, tchouk, il y a une petite... en fait, le logiciel qu'on fabrique, c'est une simulation du circuit. Mais le circuit a l'avantage de travailler vraiment ensemble. Tout est parallèle.
Alors, est-ce que ce que vous faites là a à voir avec l'IA d'aujourd'hui ? Pour reformuler ma question, est-ce que l'IA échappe aux 3 configurations du lien entre temps et informatique que vous avez cité ? Est-ce que ça invente quelque chose ou est-ce que ça s'insère dans des choses déjà existantes ?
Alors, l'IA classique, celle qui se fait sur des grosses machines avec des GPU, comme on dit, elle est dans le cadre 1, c'est-à-dire des algorithmes séquentiels. C'est-à-dire qu'ils sont parallélisés, mais de façon assez rudimentaire, c'est-à-dire que on fait faire 50 000 fois la même opération à des sous-machines. Donc on accélère d'un facteur 50 000, c'est pas mal. Donc ça, c'est le 1. C'est vraiment le 1, c'est-à-dire bah, pour aller plus vite, il faut mettre plus de matériel. Et c'est, faut pas forcément changer les concepts. Enfin, si, quand même. C'est toujours en changeant les concepts qu'on va aller plus vite. Mais on met plus de matériel. Alors, ça rentre aussi dans le 2. Pourquoi ? Parce que dans le 2, c'est la synchrone. Pourquoi ? Parce qu'on commence à faire, et il y a en particulier une femme française qui a été élue à l'Académie des sciences là, cette année, Anne-Marie Carmaret, qui travaille là-dessus, et d'autres, qui beaucoup d'autres qui travaillent là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'IA fédérative. L'IA fédérative, c'est justement de faire l'IA, non pas en centralisé comme avant, mais en décentralisé. On prend des bases de données locales, on ne prend pas toutes les données brutes, tout. Non, on prend des bases de données locales, on commence par faire des prélèvements, des premières analyses, ensuite les résultats des premières analyses sont passés, sont échangés, etc., pour terminer par une analyse globale. Donc ça, c'est asynchrone, c'est-à-dire c'est des machines différentes dans des endroits différents qui font ça. Et c'est très important, pourquoi ? Eh bien, parce que dès la deuxième couche, il n'y a plus accès aux données directes. Donc, les problèmes de confidentialité et tout ça deviennent complètement différents. C'est un peu terrifiant de savoir que tout le monde a toutes les données du monde. Alors là, c'est plus vrai si on fait comme ça.
L'informatique, qui est votre grand sujet, Gérard Berry, on a tendance à considérer qu'elle est née après les ordinateurs. Or, vous dites que non, elle est née bien avant, elle est née en 1936.
Alors, elle est d'abord née en 870 ou un truc comme ça, avec Al-Khwarizmi.
Ah, sur les algorithmes.
Ben oui, mais l'informatique, on utilise toujours le mot algorithme. Mais j'ai demandé à plein de gens ce que c'était que le mot algorithme.
Ben, la plupart l'écrivent avec un Y.
Oui, alors c'est ça, j'ai reçu des invitations, venez nous parler des rythmes, c'était les médecins, venez nous parler des rythmes, algos, rythmos. Donc, non, ça vient, le mot en français date de 1230, je crois. Il va y avoir un livre qui sort dans la collection que je fais à chez Odile Jacob sur l'histoire des algorithmes, les algorithmes au Moyen-Âge. Donc c'était déjà connu.
Alors qu'est-ce qui a déclenché le passage des algorithmes à l'informatique ?
Alors, ce qui a déclenché le passage, c'est la logique formelle et Turing. Enfin non, Turing et Church. Il y a deux savants, Turing et Church, qui ont tous les deux d'essayer les traces complètement actuelles. Turing, c'est la structure des machines, et Church, c'est la structure des langages de programmation. Parce que ce qu'a fait le Church, c'est le lambda calcul, qui est la... Bon, je ne vais pas y raconter, mais c'est le... Tous les langages modernes sont fondés dessus, maintenant. Même JavaScript, qui est quand même, on pensera pas que c'est un langage scientifique, ben si, c'est fondé sur le lambda calcul. Donc, c'est ça. Ils ont systématisé, ils ont fait la théorie des calculs. Et en particulier, montré qu'il existe des choses qu'on ne peut pas calculer. Il existe des choses quelque part, elles devraient être faciles à calculer, mais qu'on ne peut pas calculer. Il en existe forcément. On peut les calculer, on peut dire celle-là, on saura la calculer en faisant comme ça, mais il y en a une autre à ce moment-là, etc. Donc ça, c'est la théorie de Turing, la théorie de la calculabilité. Et après, il y a une deuxième théorie, c'était la théorie de la complexité, de l'efficacité des algorithmes. Oui, alors c'est 36 pour Turing et Church.
1936.
Et puis la thèse de Church-Turing, c'est que ben, y a que ça, on ne peut pas faire mieux que ça. C'est une thèse, hein. Donc c'est une thèse.
Mais alors, quelle est, Gérard Berry, la différence qu'on peut voir, si on a une, entre la pensée algorithmique et la pensée physique ?
La pensée algorithmique est profondément une pensée humaine. Il faut comprendre qu'il y a une très grande différence entre l'informatique et les sciences naturelles, comme la physique. C'est que nous, tout est dans nos têtes. On est limité par la physique. Mais, comme on sait faire les ordinateurs, tout le reste, c'est dans nos têtes. Un langage de programmation, c'est purement dans nos têtes. Écrire un programme, c'est purement dans nos têtes. Personnellement, c'est pour ça que j'ai choisi de faire de l'informatique, parce que je trouvais ça trop lent. Trop lent de s'intéresser à la nature. Quand on voit le travail d'Alain Aspect, par exemple, pour montrer la violation des inégalités belles,
Il est venu en parler il y a quelques semaines.
Oui, oui.
Ce même micro.
Je sais. Et c'est un travail magnifique, mais c'est horriblement dur et long. Et l'informatique.
Il l'a fait pendant sa thèse.
Bah oui.
Donc c'est pas si long que ça.
Ouais, enfin, si.
Parce qu'il est l'héritier d'une longue histoire, ça c'est sûr, mais le travail lui a pris quelques années.
Oui, le travail lui a pris quelques années, mais dans. Bien sûr. Le problème est à 20 ans déjà. Hein. Donc, bon. Nous, en informatique, on est limité par nos têtes. Les ordinateurs m'ont jamais limité, moi, c'est pas le problème. Hein. Tout ce qu'on faisait, les ordinateurs, même quand ils étaient lents, ça allait. On se débrouillait avec. Ce qui nous limite, c'est notre mental. Et moi, je trouvais ça absolument fascinant. C'est aussi vrai pour d'autres domaines, comme la littérature. Il n'y a pas de machine dans la littérature, on est limité par son mental. Mais l'informatique, à la fois... Et puis, il fallait tout découvrir. La physique, il y a quand même assez longtemps que c'est plus vrai, ça, malheureusement. Alors l'astronomie, ça redevient vrai. On m'appelait astronome quand j'étais petit, mais l'astronomie, c'est vrai, et c'est vrai que c'est un champ d'action extraordinaire, puis ça parle aux gens. L'informatique n'a jamais parlé aux Européens, ce qui fait qu'on est totalement inexistant dans ce sujet, qui est juste le premier bassin et la première industrie du monde. Premier bassin d'emploi et la première industrie du monde. Donc on a décidé d'être totalement absent. Ça, j'ai toujours regretté, j'ai toujours essayé d'argir contre, mais sans succès.
À ce propos, Gérard Berry, comment avez-vous réagi en octobre 2024, lorsque vous avez appris, comme tout le monde, que le prix Nobel de physique a été attribué non pas à des physiciens pur jus, mais à deux pionniers de l'intelligence artificielle, John Hopfield et Geoffrey Hinton, pour, je cite, leurs découvertes fondamentales et inventions qui ont rendu possible l'apprentissage automatique et les réseaux de neurones artificiels?
J'ai pas vraiment d'avis sur ce sujet. Je pense que ça a étonné les physiciens en moyenne, mais je pense que c'est pas idiot parce que c'était quand même une grande découverte. J'ai fait venir personnellement Yann LeCun au Collège de France en 2016, à une époque où c'était pas du tout connu. C'est-à-dire juste avant que ce soit connu, pour tout dire. Et j'avais déjà compris qu'il se passait des gros trucs. J'utilisais déjà d'ailleurs en photo. Et parce que la reconnaissance d'images avait énormément progressé, en particulier pour les images médicales, avec des techniques qui sont pas du tout les mêmes que l'informatique. Moi, je mettrais pas l'intelligence artificielle dans l'informatique. Ça utilise des ordinateurs, mais c'est pas du tout les mêmes techniques. C'est pas forcément les mêmes gens, et c'est un sujet très intéressant sur lequel, enfin même plus que très intéressant, sur lequel les gens se partent en vrille à raconter n'importe quoi très très facilement. Donc il faut quand même se méfier un peu. Faut pas confondre, faut se méfier du wishful thinking. C'est pas parce qu'on pense qu'un truc va exister que ça existe. Moi, j'ai pas été sidéré par le fait que les langues, etc., soient très bien traitées, parce que c'était déjà vrai avant. Par exemple, la traduction, un système comme DeepL est absolument remarquable. Je sais pas s'ils l'ont utilisé ou pas, mais c'est devenu tout à un coup, ouf, douf, dans les journaux. C'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Mais quelque part, les langues, c'est pas forcément si difficile que ça. Moi, j'ai deux petits-enfants qui ont appris simultanément le finlandais et le français, ce qui est totalement impossible pour un adulte, et ça leur a posé aucun problème. Eux, ils trouvent que le finlandais est plutôt plus facile que le français, parce que c'est la langue de leur mère. Mais ça leur a posé aucun problème. Donc, quelque part, les langues, c'est pas forcément des structures très dures. Et ben, l'IA a montré que non. Ça, c'est clair. C'est pas des structures très dures.
Alors, comment est-ce que vous expliquez, Gérard Berry, qu'il y ait autant de langages de programmation différents?
Parce que les langages de programmation n'ont rien à voir avec le langage. Il y a beaucoup de langages de nature, on va être différencié. Mais les langages de programmation n'ont rien à voir et ça a progressé doucement. Il y a des instructions qui sont arrivées, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Il y a deux façons de faire les langages. Il y a une façon très, très scientifique, mathématique, qui est d'avoir d'abord une structure solide. Et puis il y a une autre façon empirique, qui a gagné pendant longtemps, c'est de faire le langage quasiment sur un coin de table et essayer de le faire marcher après. C'était le cas de C. Mais à l'époque, c'était normal parce qu'il y avait des contraintes dans tous les sens. Mais dans C, il y a 120 cas de programmes pas compliqués dont on ne sait pas ce qu'ils doivent faire. C'est vrai dans pas mal de langages. Et il y a des façons très techniques, comme pour Camel, le langage de Xavier Leroy, qui est maintenant au Collège de France, qui sont extrêmement définis, extrêmement bien définis. Voilà. Donc il y a beaucoup d'ego dans le domaine, bien sûr, de création. Bah, c'est un peu comme les tableaux, hein. Et le langage, c'était très expérimental. Maintenant, ça c'est assez, mais il y avait beaucoup d'idées différentes, des fois petites, et on changeait aussi de style, comme ça faisait un peu neuf, il y avait tout.
Donc, ils sont propose de Raméry qu'on vienne à un problème concret, parce que là on a parlé de choses assez conceptuelles. Donc, vous parlez dans le livre des prothèses auditives.
Oui.
Et quand on vous lit, on a l'impression que cet instrument qui est devenu banal, familier, c'est un miracle technologique.
Alors, les prothèses auditives ont très longtemps était l'objet qui tirait l'amélioration de l'électronique. C'était parce que, faut savoir que les premières prothèses auditives, la première faisait quelque chose comme 200 kilos, donc c'est pas très portable. Et ensuite, les prothèses auditives qui me servent bien et qui servent à des milliers de gens, de plus en plus, ce sont des systèmes qui doivent être portables et de bonne qualité. Et alors, les prothèses analogiques, donc avec des méthodes classiques, ça n'était pas le cas. En particulier à cause de ce qu'on appelle en français l'effet Larsen, positive feedback, les sifflements qui se passent d'interférence entre le retour des signaux et le système, ça sifflait tout de suite. Les prothèses auditives actuelles sont des circuits extrêmement chiadés, il n'y a pas d'autre mot, avec des capacités extraordinaire de traitement de signal, justement. Des fois, trop. Là, j'en ai essayé une qui a été fantastique au niveau de... Mais pour la musique, ça n'allait pas, quoi. Donc, moi, j'aime bien la musique. Et donc, c'est extraordinaire. Et c'est très miniaturisé. Et surtout, ça ne mange pas la batterie ou la pile. Une batterie, ça dure 14-15 heures là-dessus, alors que ça travaille tout le temps. C'est pas le cas d'un téléphone, hein. Donc voilà. Donc ce sont des choses. Alors c'est très difficile de savoir ce qu'il y a dedans, mais ce sont des choses de première force scientifique.
Là, je vais poser une question naïve, hein. Mais comme vous y répondez dans le livre, je me permets de la poser. Pourquoi est-ce qu'on a deux oreilles?
Pour la directionnalité. On a beaucoup plus que ça, parce que deux oreilles, ça fait qu'il y a une différence de phase entre les ondes. Ben, si on sonne un point à gauche, et il y a même plus de temps à atteindre l'oreille droite, ça fait une différence de phase, mais ça suffit pas pour localiser, hein, il faut sur plusieurs fréquences, donc. On a aussi...
C'est le cerveau qui fait le travail.
Ah oui, mais là on s'arrête de savoir, hein. On sait très bien ce que c'est que l'oreille. Et encore, oui, on sait très bien, le cours de Christine Petit est extraordinaire. La leçon de clôture de Christine Petit est fantastique au collège. Mais, par exemple, comment on détecte les sons verticalement? Là, il n'y a pas d'écart de phase. Et ça, on ne sait pas. Mais bon, il y a des tas de conjectures là-dessus, que c'est des résonances dans la boîte crânienne et tout. Il y a Mathias Fink qui a des idées là-dessus, justement, avec les retournements temporels. Bon, c'est des sujets très techniques. Mais voilà, mais je pense que les prothèses auditives, moi j'aurais bien aimé travailler dessus, parce que c'est vraiment, à l'heure actuelle, des petites merveilles.
Gérard Méry, il y a un chapitre dans votre livre qui se termine par une phrase qui fait penser à du Salvador Dali, mais qui demande à mon avis que vous la commentiez, peut-être même que vous l'expliquiez. Vous écrivez « Le rigide n'a plus d'avenir, vive le mou déformable ». Qu'est-ce que ça veut dire?
Moi je suis régent de déformatique.
Oui, vous êtes informaticien le jour et déformaticien la nuit.
C'est ça. C'est ça. Alors la déformatique se définit, c'est le contraire de l'informatique, donc elle se définit plus précisément par l'informatique, c'est la science de l'information, et la déformatique, c'est le contraire.
Mais donc, c'est pas la science de la désinformation,
alors,
pour autant.
La science de la désinformation, on pourrait penser que c'est ça, mais pas du tout. Ça, c'est une
spécialiste par ailleurs.
Une discipline interdite en pataphysique. Il y a beaucoup, beaucoup trop de monde, beaucoup trop de spécialistes du sujet. On les laisse se battre entre eux. Et non, mais la déformation. Et justement, le temps est devenu déformable avec Einstein. Et ça, jamais. Et moi, j'ai une théorie, sur pourquoi. Parce que Einstein apprenait le français. J'ai pas encore validé complètement, mais Einstein apprenait le français, il est tombé sur l'expression française « l'espace d'un instant ». Et ça, ça lui a dit « oh ».
L'espace-temps.
Oui, ça lui a fait quelque chose dans la tête, et après il a fait sa théorie. C'était comme les expériences de pensée. Voilà. Et donc, oui, vive le mou, parce que les algorithmes... Vive Internet, qui est mou. Internet ne connaît pas le temps, il n'y a pas de loi quasiment dans Internet, il n'y a aucune loi dans Internet. Il y a des algorithmes mous qui font passer des paquets, vive le mou. Le rigide des premiers ordinateurs, il a disparu avec Internet complètement. L'IA, l'IA, ça analyse du mou pour rendre du mou, et c'est super, super bien.
Mais votre travail de déformaticien, donc celui que vous effectuez la nuit, je sais pas à quelle heure, mais ça vous prend du temps, parce que vous développez une théorie du temps à base de quantas de temps qui sont des tantons.
Alors, oui, alors c'est effectivement, il y a un certain nombre de
découvertes. Vous résolvez des problèmes de physique qui, oui, normalement, ne devraient pas vous regarder, comme celui de la matière noire.
Si, ça me regarde, parce que c'était ma leçon inaugurale de déformatique. 3 jours après, ma 2e leçon inaugurale au Collège de France. Hein.
Il faut le faire.
Et oui, et on a résolu le problème de la matière noire, oui.
Alors comment ?
Alors je peux le dire, ça, oui. Ben, on a montré d'abord que le temps était particulier. Il n'y a rien de spécial en physique, hein. C'est rien de très nouveau. Le temps, c'est des particules. Et il y a 2 particules qu'on appelle les tantons. Une qui s'appelle le tic et l'autre qui s'appelle le tac. Et ces particules, isolées, elles font rien. Mais si on les met ensemble, un tic et un tac, ils se mettent à faire tic-tac à une fréquence connue et fixe. L'intervalle de temps, c'est le laps de temps. Et ils se mettent à faire tic-tac. Donc ça, c'est la première découverte, c'était déjà pas évident. La 2e découverte, c'est que les tantons ont une durée de vie finie. Et oui, au bout d'un moment, ils s'arrêtent et ils deviennent des tocs, des temps morts.
Ah. Je vois Luc Jean Reynaud et notre...
Mais quoi, c'est pas plausible,
si,
c'est pas
possible,
ça. C'est complètement vrai, hein, c'est vérifié. Et puis, la 3e découverte, qui a été beaucoup plus dure, c'est que les tocs ont une masse non nulle, parce que les tics et les... Quand ils deviennent un toc, les tics et les tacs, eh bien, ils ont encore de l'énergie. Et cette énergie, Einstein, se transforme en masse. Mais c'est pas réversible. C'est un des trucs dont la mécanique quantique n'est pas encore expliquée. Ce truc-là n'est pas réversible. Et donc, depuis que le temps passe dans l'espace, l'espace se remplit de toc. Et donc, la matière noire, c'est du toc.
Ah, mais je vais expliquer ça à mes collègues dès la semaine prochaine. Je verrai leur réaction.
Voilà, c'est des temps morts.
Mais est-ce que... Dans votre temps de travail, qui est copieux, Gérard Berry, quelle est la proportion que vous passez à vous amuser ?
Alors ça, c'est complètement variable, mais quand je bute sur un problème, je me dis qu'il faut penser autrement. Et je pense qu'il y a des moments, quand on bute sur un problème, il ne faut pas chercher dessus. C'est pas en cherchant dessus qu'on trouvera, c'est en allant voir ailleurs. Et ben, ça dépend avec qui on cause, ça dépend des copains. Mais je pense que c'est très très utile. Ça, pour moi, c'est d'ouvrir des fenêtres sur autre chose, c'est toujours bon. Et je pense que les idées, ce que vous racontez sur les expériences de pensée, c'est quand même ça. C'est changer de méthode.
Merci Gérard Berry, c'est toujours un plaisir de vous
merci
recevoir.
À vous.
Je recommande vivement la lecture de votre livre Le temps vu autrement, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Anthony Thomasson et à la réalisation Luc Jean Reynaud.